Bonjour à tous. Vous connaissez l'adage qui dit les années se suivent. Et on a dit elles se ressemblent, mais elles ne se ressemblent pas parce que l'année passée, j'ai dû annuler mon voyage ici parce qu'il y avait la neige. Et j'ai bien failli penser que hier matin, quand j'ai vu la neige tomber, je vais dire ça y est, ça recommence, on va pouvoir rester à la maison. Mais Dieu a permis que nous soyons là ce matin, c'est une joie pour nous d'être parmi vous en souhaitant que cette année soit une année bénie. Comme le Seigneur le prévoit, pour qu'on lui reste fidèle, qu'il nous accorde tout ce dont vous avez besoin pour lui rester fidèle. Pour notre méditation de ce matin, j'aimerais vous lire un passage dans Jean, chapitre 1, les 13 premiers versets. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En effet, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Les deux évangélistes, Matthieu et Luc, ont commencé par raconter la naissance de Jésus. Mais lui, Marc, a commencé, mais Jean a commencé par annoncer Jésus. Bien avant, il remonte plus loin dans le temps où tout a commencé, car l'histoire de Jésus n'a pas commencé à sa naissance. L'évangéliste Jean commence par rendre hommage à la parole, celle qui a part à la nature même de Dieu, qui était à l'œuvre quand Dieu créa l'univers. Mais pour son incarnation, Dieu a mis en place un projet impliquant de nombreuses personnes. Pour qu'à la réalisation des prophéties, il n'y ait pas de doute possible. Pensez que 800 ans avant, quelques prophéties avaient prévu cette naissance. Dieu a pris le temps pour préparer sa venue. Des siècles, des prophètes, auparavant des prophètes ont annoncé. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 1, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière, car un enfant nous est né. Un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. Ésaïe 40, c'est la venue de Jean-Baptiste qui, lui, est venu pour préparer la venue de Jésus. Michée 5, verset 1, c'est tous des versets que nous avons sans doute entendus ces semaines passées. De Bethléem sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens. Et c'est précieux de nous savoir. Il annonçait Jésus, mais son activité était déjà effective des temps anciens. Dans Ésaïe, au chapitre 7, verset 14, nous disons « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte et l'enfantera un fils. Et lui donnera le nom d'Emmanuel. » Tous ces jalons ont été placés pour nous. Mais si on revoit dans cette lecture de d'Ésaïe 7, lorsqu'il est annoncé cette venue de Jésus, la situation historique est catastrophique. À l'époque de la prophétie, le royaume de Juda est en grand danger. Il est menacé par la Syrie et le royaume d'Israël. Ils ont décidé de destituer le roi Akaz. Akaz a très peur. Il tremble de peur, il nous est dit. Son cœur est agité comme les arbres de la forêt, agité par le vent. nous dit le texte. Mais Dieu lui dira, cela n'arrivera pas. Alors il est dit dans le chapitre 7, sois tranquille, Akaz, ne crains rien, et que ton corps ne s'alarme pas. Si vous ne croyez pas que j'interviens, vous ne subsisterez pas. Je crois que parfois dans l'adversité que l'on vit maintenant, parfois, au point familial ou autre, ou dans l'église, ou aux épreuves, cette parole de Jésus, de Dieu lui-même. Calmez-vous. Soyez sans crainte. Il faut me croire. La décision d'Akab, le prophète est venu lui dire, remets-toi en Dieu, fais confiance à Dieu, n'aie pas peur de l'invasion. Dans 2 Rois, chapitre 16, nous voyons qu'il a préféré s'allier à l'Assyrie, peuple païen, qui est actuellement un peu l'Irak, l'Arabie, l'Arménie, la Turquie peut-être. Et ce grand pays, Akaz a recherché la protection dans ce pays. Et il a donc refusé la paix que Dieu lui proposait. Dieu lui propose la naissance d'un enfant. Dans ce verset que nous avons lu, c'est celui-là, qu'il va y avoir un enfant, la mère deviendra enceinte, elle enfantera un fils. C'est dans cette situation-là où Dieu avait dit à Akaz, demande-moi un signe. Et lui a dit, non, je ne permettrai pas de demander un signe. Et Dieu lui a dit, je vais te le donner quand même. Dans les temps prévus, la Vierge va être enceinte. C'est dans cette situation-là que Jésus, la venue, a été promise. Dieu lui propose la naissance d'un enfant. Cet enfant à venir annonce la fin des ténèbres. On lui donnera les noms les plus prestigieux, admirables, conseillers. Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il donnera une paix sans fin au trône de David. Sa venue permettra la libération et la joie. On est un peu dans cette attente, hein, quand on voit que tout se bouleverse autour de nous, tellement troublé par les événements, et on ne sait pas où on va nous mener. Faire confiance à Dieu. Henri Blocher, dans son livre « La Bible au microscope » dit « C'est l'Éternel qui visite son peuple pour le sauver. » C'est Dieu qui s'unit au sien, comme l'épouse à l'époux. Il se rendra présent d'une manière inexpliquée. Et ça, j'aime ce mot. Venant d'un théologien comme Henri Blocher, il se rendra présent d'une manière inexpliquée. Et c'est vrai que c'est un mystère, l'incarnation de Dieu. Mais unique, par son Fils. Mais entre ces prophéties et leur réalisation, il s'est passé des siècles. Des siècles de souffrance, des années où le temple a été profané. Dans la période entre Malachie et Matthieu, il s'est passé 400 ans à peu près, où Dieu ne s'est pas manifesté, où il y a eu des troubles, où le temple a été profané. Antiochus IV a été le plus terrible, où il a fait des choses atroces dans le temple. Mais malgré cela, pendant cette période, des hommes ont été fidèles, sont restés fidèles. Et c'est pour cela qu'il a pu trouver Zacharie au temple. Et pour lui annoncer le début, la prophétie, la réalisation de la prophétie qui se mettait en marche. Les deux chapitres de l'évangile de Luc sont le début de la réalisation de ces prophéties et pour leur accomplissement. Bien des personnes ont été impliquées, parfois malgré elles, à ce projet de Dieu, en commençant par Zacharie. Zacharie est devenu muet par son manque de foi, et s'est donc trouvé isolé de la société pendant un temps. L'ange Gabriel s'est adressé à deux femmes. Pour Élisabeth, c'était l'annonce d'une grossesse inespérée. Pour Marie, ce fut l'annonce d'une grossesse non désirée, et pour cause. Les conséquences pour ces deux femmes n'étaient pas les mêmes. Si Élisabeth a préféré se cacher pour éviter le ragot face à une grossesse tardive, pour Marie, ce fut plus compliqué. Et on le comprend. Pour cette jeune fille fiancée, avec des rêves plein la tête, c'est le choc, être enceinte. Et en ce temps-là, être enceinte sans connaître d'homme, c'est la lapidation. Mais heureusement, vous l'avez dit. et trouvant Joseph un homme compréhensif qui va le prendre avec lui. Dieu avait tout prévu, même les faire part de l'essence. Mais contrairement à ceux qui nous arrivent d'envoyer des faire part identiques, on en fait des dizaines, des centaines, Dieu adapte son message pour que tout soit compris par tout le monde. Nous avons fait allusion au mage tout à l'heure. Ces astrologues, dont leur métier était de scruter le ciel, de lire les étoiles, le message, ils avaient les yeux fixés vers le ciel, et on peut comprendre qu'une étoile qui a brillé un peu plus qu'une autre suffit pour les mettre en marche. Vous imaginez le défi ? Et quand on fête la naissance de Jésus, on fait des scènes avec les mages qui sont là. Je me disais l'autre jour à mes petits-enfants que forcément, peut-être qu'ils n'étaient pas là à la naissance de Jésus, puisque Hérode, quand il a su où était l'élan, depuis combien l'étoile brillait, il a tué les enfants de moins de 2 ans pour être sûr qu'ils soient dans cette chaîne-là, dans cette craie, dans cette créneau. Alors, ils ne sont pas arrivés tout de suite, mais quand même, ils se sont mis en route, faire des milliers de kilomètres, rien que parce qu'une étoile a brillé de plus qu'une autre. Les bergers, eux, n'ont pas vu l'étoile, forcément. Ils avaient les yeux fixés sur terre, par terre. Ils surveillaient leurs richesses pour leurs troupeaux, qu'ils ne soient pas volés, qu'ils ne se perdent pas. Ils n'ont pas vu cette étoile, bien sûr. Pour le roi Hérode, c'est les mages qui lui apportent le faire-part, le mettant au courant de la naissance de Jésus. Imaginez, ils étaient sur place, ils n'ont rien su. Et c'est le roi Hérode à son tour qui va prévenir les chefs religieux de la présence du Messie promis. Imaginez la chaîne. Dieu a vraiment veillé pour que toutes les couches de la société soient au courant que le plan rédempteur prévu se mettait en place et que personne ne pouvait ignorer. Les derniers prévenus, c'est sacrificateurs, c'était scribes qui auraient dû être au courant puisqu'ils connaissaient la parole. Dieu est venu. Le plan rédempteur de Dieu se met en marche. Et personne ne pouvait l'ignorer. Matthieu chapitre 20, verset 28, Jésus dira lui-même, « Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Dans l'Épître à Timothée, l'apôtre Paul l'a résumé ainsi, parlant d'un mystère, « Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » La naissance miraculeuse de Jésus est un mystère. Jésus est à la fois réellement homme, mais exempt de péché, réellement Dieu. Il est venu partager notre existence. L'ange confirmera à Joseph, tu l'appelleras Jésus, c'est-à-dire l'Éternel sauve. C'est lui qui sauvera son péché, son peuple de ses péchés. C'est-à-dire, il va les arracher de l'enfer, de la mort, mais aussi de notre misère, de notre tristesse, de notre souffrance, de notre désespoir peut-être, mais mieux que cela. Il nous fait l'honneur de sa présence dans l'humanité, dont l'humanité était privée depuis Adam. Emmanuel, Dieu avec nous. Joseph Wesley, ce grand évangéliste méthodiste anglais en mourant, a dit Dieu avec nous. Ce qui a privé l'homme de la présence de Dieu, c'est d'avoir ajouté foi au mensonge du serpent, du diable. Prétendre que Dieu voulait nous maintenir dans l'ignorance. Imaginez, depuis ce désir du diable de nous détourner de la vérité. Mais le diable avait tout faux. Dieu n'aurait jamais mis en place un plan si machiavélique, coûteux pour lui, pour retrouver une intimité avec sa créature. Et son désir profond, c'est vraiment de nous retrouver. Retrouver cette tâche privilégiée avec lui qui a été perdue en Éden. Je ne sais pas si vous l'avez déjà partagé, mais il y a quelques années, j'ai assisté à une conférence sur le handicap, vulnérabilité, fragilité La dignité humaine est notre commune vocation. Le conférencier Éric Fiat, philosophe et professeur à l'Université de Paris-Est, m'a agréablement surpris lorsqu'il a commencé son exposé sur, donc, sur le handicap, la vulnérabilité, la fragilité. Il a commencé son exposé, devinez quoi ? En lisant la Bible. Il a commencé comme ceci. Au commencement, Dieu créa les animaux selon leur espèce. Mais il créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Mais puis après, l'homme s'est rendu indigne de cet honneur en écoutant le tentateur. Mais voilà, disait-il, on n'est jamais indigne, quel que soit notre handicap, car malgré ses fautes ou ses défiances, l'homme reste créature et à l'image de Dieu. Tout homme a une dignité intrinsèque qui ne changera pas quoi qu'il fasse. Mais il ajoutait, ça ne veut pas dire que toutes les attitudes ou les conduites que nous avons sont parfois indignes. Mais nous restons à l'image de Dieu. Et il disait, Dieu sur la croix s'est fait homme pour... C'est toujours lui qui parle. Hein. Dieu sur la croix s'est fait homme pour redonner sa dignité à l'homme déchu. Sur la croix, il a pris notre misère. Et il était comme ça, ce gars, devant 200 éducateurs. Il a pris notre misère sur la croix, nos défiances, pour que nous retrouvions notre place près de lui. À un autre moment de son discours, il a dit ceci. Face au handicap, le respect ne suffit pas à redonner la dignité. Il faut de l'amour. Mais il a précisé, non pas l'amour eros ou phileos, mais l'amour agapé, qui est le don total de sa vie. Pas de respect sans amour, de cet amour qui se donne. Ah, j'étais époustouflé de voir ce témoignage de cet homme. Et il a ajouté cette belle déclaration. Quelle belle journée ce fut pour moi, le jour où j'ai compris que j'étais aimé de cet amour. C'est quand même fabuleux, dans tous ces éducateurs, j'étais époustouflé. J'ai vraiment vécu un moment irréel, entendre proclamer devant 200 éducateurs et psychologues que Dieu s'est incarné par amour. Dans ce qu'on appelle le prologue, Jean veut attirer nos regards vers ce qui est posé, ce qui est pour nous le mystère de l'incarnation. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu, cela nous rappelle les premiers versets de la Genèse, le récit de la création du monde. La parole est à l'origine de la création, et la première chose que créa la parole, qui est l'expression parfaite et vivante de la pensée de Dieu, et la première chose créée, ce fut la lumière, pour que la vie soit possible. Jésus nous dit qu'en elle, donc la parole, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et cette lumière vit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. La version aucune nous dit que Christ était la lumière véritable. Venant dans ce monde, celle qui éclaire tout homme. En effet, il était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est même venu chez les siens, mais ils ont refusé de l'accueillir. Quelques-uns, cependant, l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. Ils ont placé leur confiance dans tout ce qu'il était. Et à tous ceux-là, il a accordé le privilège, donc à nous tous, de devenir enfants de Dieu. Peu importe leur race, leur handicap, seulement par la seule volonté de Dieu. Paul ajoutera dans l'Épître aux Colossiens, rendez grâce à Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son amour, de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés, car il est l'image du Dieu invisible. Il a la primauté sur toute la création. Il est avant tout toute chose à l'image du Dieu invisible. Il est précieux de savoir tous ces ce que Dieu a prévu dans son plan rédempteur, et ce n'est pas une fable. Bien sûr, il y a des choses, il nous faut vraiment la foi pour le croire, parce que si mécaniquement on veut essayer de comprendre ce processus, on n'y arrivera pas. Mais Paul ajoute, il est la tête du corps de l'Église. En préparant ce message, lorsque j'ai lu ce verset, je suis resté assez reconnaissant, mais Vraiment, j'ai réalisé que le plan rédempteur de Dieu était conduit par son amour même. Lui qui a quitté sa gloire, s'incarner dans le corps d'un enfant, vivre au milieu d'un peuple ingrat, se charger de nos péchés, les expier sur la croix, dans notre souffrance, et nous accorder un pardon total, et par son esprit, continuer de nous entourer de son amour en attendant son prochain retour. Quel plan merveilleux! Même si cela a mis des siècles pour se mettre en place, le plan de Dieu était parfait pour nous tous. Et si Dieu a adapté son faire-part de naissance, qu'en est-il de son plan rédempteur? Oui, nous sommes au courant de cela. Nous avons besoin de comprendre ce plan, de l'accepter par la foi et l'accepter que sa parole est vraie. Comme l'image, ils ont reçu le message de la naissance parce qu'ils avaient les yeux rivés vers l'Écriture, vers le ciel. Ils pouvaient discerner le moindre étincelle un peu plus qu'une autre. Qu'en est-il pour nous? Est-ce que nous lisons la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes imprégnés par elle et nous laissons conduire par elle? Alors oui, le plan rédempteur est pour nous et facile à accepter. Pour les bergers qui étaient constamment envers leur bien, est-ce que nous sommes peut-être trop occupés par la vie de tous les jours, par le travail, la recherche d'un travail peut-être, par les épreuves de la vie familiale, par la maladie ou la recherche d'un emploi? Il y a tant de choses qui peuvent nous préoccuper et nous arracher de notre recherche de la présence de Dieu et avoir des projets qui nous concernent, avoir ce désir de faire sa volonté. Il y a quelqu'un qui a été arrêté. Et là, il n'y a pas fallu une lumière, une étincelle un peu plus haute, qui a brillé, comme pour les mages. Pour les bergers, ce fut une lumière resplendissante, nous dit la parole. Mais pour l'apôtre Paul, ce témoignage de celui qu'on a cité tout à l'heure, comment a-t-il été arrêté? Par une lumière aveuglante. Stop! Qui ne pouvait pas continuer plus loin parce que son délire contre Dieu était trop grand et il fallait que Dieu l'arrête brutalement. Pour nous tous, qu'avons-nous besoin pour cette nouvelle année? Ce désir de lire sa parole, de la méditer, de nous laisser enseigner? Ou alors peut-être comme des bergers trop occupés par l'environnement? Ou peut-être dans nos réactions, nous sommes en désaccord? Quelle lumière de Dieu devra-t-il employer pour nous arrêter, pour nous montrer que ce qu'il désire pour nous, c'est un chemin précieux? Quand ces temps de fête, où notre société oublie le vrai sens de Noël, prenons le temps d'adorer celui qui a donné sa vie par amour, de reconsidérer le chemin sur lequel nous marchons. Un chemin difficile peut-être, avec un cœur en révolte, que la paix promise par les anges vous semble inaccessible, sachez que le Seigneur est venu spécialement pour vous décharger de tout ce qui vous pèse. Et puissiez-vous, comme l'image, repartir par notre chemin, c'est-à-dire Christ, avec Christ au centre de votre vie. Louant Dieu comme les bergers, la main dans celle de Jésus, pour continuer la route, même si elle est difficile. Oui, une année s'ouvre devant nous, peut-être, nous ne savons pas ce qu'elle comportera, mais qu'elle puisse être selon le plan de Dieu. Accepter de marcher avec lui et nous laisser reprendre peut-être, mais marcher avec confiance, comme je l'ai dit, dans la main de Jésus. Puis fuyez-vous dire, comme ce philosophe, quelle belle journée, ce fut le jour où j'ai compris que je suis aimé de Dieu et que son plan pour nous, pour moi, est parfait. Dieu, Emmanuel, toujours avec nous. Amen. Amen.